L'actu chaude, là, c'est que c'était l'anniversaire de mon fils.
Ah, et donc ?
Et donc,
oui. T'as fait un gâteau licorne aussi ?
Alors, pas gâteau licorne. Non, alors, niveau gâteau, c'était très soft. Gâteau au yaourt et tout, c'est lui qui a choisi.
Oh, trop
gâteau
bien.
Gâteau yaourt. Nature, on a mis vraiment des...
Un peu de vanille.
Un peu de zeste de citron.
Ah, du citron.
Histoire de dire, okay, tu vois. Ouais. Mais c'est tout, quoi.
Mais
ça, c'était parfait.
Pas, ouais.
Par contre, là, le gros truc, c'est que c'était un anniversaire avec ses copains au laser game.
Oh, waouh.
Oh, waouh.
Attends, mais ça, c'est cool parce que c'est aussi un truc où les grands ils peuvent s'amuser normalement.
Bah alors j'ai vachement hésité et en fait j'ai pas participé aussi parce que bah fallait
les gamins à coup de
non
pied.
Mais fallait gérer aussi qui se faisait chier, alors même si on était là tous les deux, tu vois, les deux parents, mais fallait quand même gérer,
bien sûr.
Et puis en vrai on a bien fait parce qu'on a fait soigneur.
Ah, oh, oh.
beaucoup de blessés. Parce qu'en fait, tu mets des gamins de 9 ans dans un labyrinthe où il fait noir,
ils
et tu leur dis,
courez
partout, et ben ils se cognent.
Oui,
ils se cognent et ils tombent.
Tu verras, comme c'est amusant de découper.
Ah, 5 agneaux innocents de présalé du Mont-Saint-Michel.
Un bon cuisinier peut faire
ça,
un
bon c'est de la bonne viande.
Bravo. La fête commence.
Bonjour, bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit. Si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de La Grosse Bouffe. Comment vas-tu Bertrand ?
Ça va et toi ? La pêche ?
La pêche, qu'est-ce que c'est que La Grosse Bouffe ?
La Grosse Bouffe, c'est un podcast qui est bien à écouter déjà sur le bien boire et le bien manger.
Et c'est un podcast qui appartient au label Podcut. Ne l'oublions pas, on reviendra dessus à la fin de l'émission. De quoi parlons-nous ce mois-ci ?
Ce mois-ci, on va parler bouffe et identité nationale.
Et pourquoi donc ?
Parce qu'on aime bien la bouffe et j'allais dire on aime bien l'identité nationale, ça va être bizarre. Mais parce que c'est une question qu'on a déjà plus ou moins survolée ou abordée de côté dans des émissions précédentes et on avait envie de creuser un petit peu le sujet avec un invité de qualité.
Et oui, car nous sommes en compagnie de Denis Saillard.
Bonjour.
Bonjour. Donc vous êtes historien, chercheur au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines de l'université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes également auteur donc, d'ouvrages scientifiques. Le plus récent, c'est Pain et liberté du Moyen-Âge au XXIe siècle, une histoire politique du pain, en collaboration avec Colline Arnaud, sorti l'an dernier en 2023. Et donc, vous êtes également spécialiste des questions d'identité nationale liées à la gastronomie, entre autres. Donc, c'est un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est un plaisir pour moi aussi, spécialiste plutôt de l'identité culturelle, mais évidemment il y a beaucoup de rapports avec l'identité nationale.
Mais justement, puisque vous abordez directement la question, comment est-ce qu'on peut distinguer identité nationale, enfin, comment est-ce qu'on peut déjà définir une identité culturelle et comment est-ce qu'on peut la distinguer de l'identité nationale ?
Je partirai dans l'autre sens, c'est-à-dire partant plutôt de la nation, hein, que disons la nation moderne, c'est-à-dire celle qui est très très liée à l'histoire de France, hein, parce que c'est cette nation-État, en fait, le concept de nation-État a vraiment pris forme pendant la Révolution française, en 1789. On peut même citer une date précise, un jour précis, le 20 juin 1789. Quand les députés du tiers-État, rejoints par certains membres quand même du clergé et de la noblesse, minoritaires dans leur ordre, mais enfin quand même, il n'y avait pas que les députés du tiers-État, décident de prêter serment, le fameux serment qu'on appellera du jeu de paume, c'est-à-dire de ne pas se séparer avant que la France se dote d'une constitution. Et cette constitution de qui, de quoi ? Ça veut dire que ça va changer la souveraineté. Le souverain ne sera plus le roi, mais sera le peuple, c'est-à-dire, mot pas synonyme, mais qui va souvent être pris comme synonyme, c'est-à-dire le peuple de la nation. Donc ces députés sont les représentants de la nation, puisque toute la nation de France, il y avait quand même plus de 20 millions d'habitants à l'époque en France, pas tous majeurs, mais même les majeurs devaient faire plus de 15 millions d'habitants, donc ils ne pouvaient pas être tous dans le même lieu, et ils avaient élu des représentants, c'était pour les états généraux, et donc ces représentants sont les élus de la nation, et c'est là vraiment que le concept moderne naît et se développe en France puis en Europe.
Donc, l'identité, enfin, la nation, c'est un concept politique. Est-ce que l'identité nationale aussi est politique conséquemment ou c'est autre chose ?
Ah, elle est complètement politique puisque la politique, dans son sens le plus scientifique, et non pas simplement des querelles entre la droite, le centre, la gauche, l'extrême droite, etc. Disons que on a une politique, c'est simplement l'organisation d'une société et aussi la répartition des pouvoirs. Et des pouvoirs entre qui ? Normalement de ceux qui composent la nation. Or c'est là que ça commence à se compliquer. Qui est-ce qui compose vraiment la nation ? Est-ce que ce sont tous les habitants à l'intérieur de frontières bien définies ? Bon, concept un petit peu étroit. Ou est-ce que c'est une conception qui peut dépasser les frontières, puisque vous pouvez très très bien avoir des gens nés en France et qui ont un passeport français, qui habitent à l'étranger, voire parfois de très très grosses communautés expatriées, sans parler de toutes les diasporas. Alors, je ne parle pas forcément de la française, parce que ce n'est pas le meilleur exemple historique, mais la diaspora arménienne, la diaspora juive, etc., etc. Donc, est-ce que la nation s'arrête aux frontières ? C'est difficile. Et à l'intérieur des frontières, d'ailleurs, est-ce que tout le monde fait vraiment partie de la nation ? Vous avez des conceptions qui sont étroites. Ça serait peut-être celles et ceux qui ont une carte d'identité nationale française, si on prend la France. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, de toute la population qui habite en France. Donc, les définitions de l'identité nationale sont assez compliquées et très politiques, dans le sens où, d'une certaine manière, tout le monde n'a pas la même conception et il peut y avoir de vastes querelles politiques, voire ça peut dégénérer même en guerre civile. Donc, c'est une question très sensible.
Donc, justement, vous avez aborder la question des diasporas et déjà en introduction, à quel point est-ce que la notion d'identité culturelle se superpose à celle d'identité nationale ?
Alors, elle se superpose dans le sens où si on prend une identité culturelle qui se définit comme la française, par exemple, qui a son équivalent, son homologue au niveau national, au niveau État, bah oui, là, il y a adéquation. Mais l'identité culturelle pourrait tout à fait se trouver à un niveau, on va dire, inférieur, non pas inférieur d'un point de vue de la valeur, mais inférieur dans sa superficie, au niveau donc de la région, voire même de micro-régions. On pourrait prendre des exemples de communautés comme cela qui se considèrent elles-mêmes comme très particulières par rapport aux populations qui les environnent. Et donc, il y a aussi une identité culturelle. Pourquoi, par exemple, même si ce n'est pas un État reconnu ni d'ailleurs par l'Espagne ni par la France, pourquoi ne pas parler d'identité culturelle basque, qui d'ailleurs est à cheval sur la frontière franco-espagnole ? Donc, non, il n'y aurait pas de raison. À partir du moment où c'est vécu par certaines personnes, après, ça pose des problèmes politiques, parce qu'à partir du moment où cette identité culturelle peut amener à une revendication d'autonomie, voire d'indépendance nationale, et donc de constitution d'une véritable nation reconnue par les autres à l'ONU, par exemple, là, on sait bien, du côté espagnol, ça a donné beaucoup de problèmes, même si c'est nettement plus pacifique depuis quelques années, fort heureusement.
Fort heureusement, oui. Merci pour ces précisions terminologiques. Maintenant, si on ajoute à cette équation, bon, déjà identité nationale, identité culturelle floue, si on ajoute à cette équation la question de la gastronomie, qu'est-ce que ça donne ? À quel point est-ce que l'alimentation, le fait alimentaire, est constitutif d'une identité, qu'elle soit nationale ou culturelle ?
Culturelle, et même nationale, parce que je l'ai pas en... Je ne la connais pas par cœur, mais je vous la cite, la définition donc de la nation dans le dictionnaire Larousse, qui est à peu près la même que celle du petit Robert. Et vous allez voir que dans cette définition de la nation, et donc d'une certaine manière de l'identité nationale, vous avez beaucoup d'éléments culturels, et dans ces éléments culturels, il y a la gastronomie. Donc je vous la lis, ensemble des êtres humains vivant dans un même territoire, ayant une communauté d'origine, ça peut être discuté, communauté d'origine, d'histoire, de culture, de tradition, donc pourquoi pas hein, la gastronomie, parfois de langue, et constituant une communauté politique. Alors on revient pas sur le politique, mais il y a bien la culture là-dedans. Et dans ces traditions, c'est particulièrement vrai en France, parce qu'il y a eu la constitution d'un discours gastronomique, on va dire moderne, il existe avant, hein, mais à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, la haute cuisine française se distingue des cuisines des pays voisins, et se distingue en voulant être supérieure, ce qu'elle finira par être reconnue un peu internationalement jusqu'à, disons, l'an 2000, où là, depuis l'an 2000, la gastronomie française a quand même un peu plus de mal à passer pour la meilleure. Mais donc, il y a de constituant d'un discours et donc de tradition plus ou moins inventée, au sens d'Eric Hobsbawm, c'est-à-dire l'invention de la tradition. C'est des traditions qui n'existent pas forcément depuis très longtemps, mais qui, au bout de une ou deux générations, on les rabâche tellement, on les répète tellement, qu'elles finissent par devenir non seulement véritables, mais vécues par les gens, par les personnes.
Je me permets, pour illustrer ce que vous venez de dire, une petite citation d'Escoffier que j'ai trouvée dans votre ouvrage « Gastronomie et identité culturelle française », que j'ai trouvée assez savoureuse. Cet art culinaire est avant tout notre art national par excellence. Sa réputation est déjà universelle au Moyen-Âge. Et dans ses commentaires, Jules César reconnaît que les Gaulois possèdent le secret de préparer d'excellentes nourritures.
Voilà, donc là, on est complètement dans la tradition inventée, avec des éléments exacts. Parce que c'est sûr que quand Escoffier, à la Belle Époque, vers 1900, ou un peu après peut-être le texte là, c'est sans doute extrait de ses mémoires qui sont publiés quasiment à la fin de sa vie, donc dans les années 30. Enfin bon, c'est l'esprit Belle Époque, c'est l'esprit 19e siècle. Ce qui est totalement faux, c'est de remonter aussi loin dans le temps, parce que bon, je sais bien que bon, Jules César c'est bien, mais les Gaulois c'est bien, mais il y a vraiment très 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 peu de rapports. Mais ça c'est classique dans toute identité culturelle et même tradition, on pourrait dire même nationalo-culturelle. On remonte, on essaie de remonter le plus loin possible, parce que c'est légitime évidemment, ça donne une force. En revanche, il a tout à fait raison, hein, en 1900, la cuisine française à l'époque est identifiée par les Français, mais aussi à l'étranger, comme un élément de la culture française. Donc, voilà, hein, de ce qui a été construit, d'une invention, entre guillemets, au sens culturel, eh bien, on arrive à une réalité aussi bien donc vécue par les Français, mais aussi reconnue parce que les touristes, quand ils viennent en France, se disent « Ah bah tiens, c'est pas comme chez nous, les Français ont des traditions que nous, on n'a pas. » Et pour les touristes, bien souvent, peu importe d'où ça vient, de quand c'est parti, donc toutes les légendes sont possibles.
Avant de s'intéresser davantage à justement ce que vous appelez l'invention de la gastronomie française, de la cuisine française, est-ce que c'est des phénomènes qui se retrouvent dans d'autres cultures ou dans d'autres pays? Est-ce que l'identité turque, iranienne, soudanaise se construit aussi autour de repères gastronomiques?
Même je vous répondrai avec deux éléments. Donc, tout d'abord, oui, hein, toute identité culturelle, nationale, régionale, etc., etc., fonctionne selon les mêmes processus que la française. Alors, évidemment, avec un contenu différent. Et si on parle uniquement de cuisine, d'alimentation, de gastronomie, il est certain qu'il y a des pays qui sont un peu moins porté sur cette tradition gastronomique. Mais enfin, on mange partout, de toute façon. Hein. On mange partout, on boit partout. Et avec les développements récents de ce qu'on appelle aujourd'hui la gastrodiplomatie, il n'y a pas beaucoup d'États aujourd'hui qui ne se sont pas rendus compte qu'il fallait, même si ce n'était pas trop habituel chez eux, qu'il fallait aujourd'hui pour eux également produire un discours gastronomique d'identité culturelle pour être plus reconnu à l'étranger, pour être plus visible. Mais bon, c'est sûr qu'en France, la France est tellement liée à la gastronomie et nous avons eu une haute cuisine qui a tellement dominé la cuisine internationale pendant à peu près 3 siècles que c'est quand même assez particulier. Mais c'est pas vraiment du tout réductible à la France. Et puis le deuxième élément, c'est que non seulement donc il y a cette identité culturelle et gastronomique qui fonctionne partout, mais il y a des influences transfrontalières, ce qui est très important en histoire culturelle, ce sont tous les échanges culturels entre pays. Et donc on voit que, en réalité, chaque pays, même il y en a qui sont plus ou moins dominants, d'accord, mais chaque pays est en fait aussi influencé par d'autres. Et même la France, alors on l'oublie un peu trop souvent, parce que dans notre discours national identitaire, la cuisine française a tellement été dominante que des éléments qui viennent de l'étranger, bah, on n'en parle pas trop, quoi, parce que ça dévaloriserait un tout petit peu le tableau, en tout cas chez certains. Mais moi, il n'y a aucune raison de ne pas dire que la France s'est inspirée largement de choses qui sont venues de l'étranger, ne serait-ce d'ailleurs qu'au point de vue des produits. Sans les produits qui sont venus d'Amérique,
pas de
ou d'Asie
frites,
ou d'ailleurs,
pas de ratatouille.
Voilà. Mais même dans des traditions, le restaurant, hein, j'ai travaillé aussi sur le restaurant. Les origines du restaurant, d'accord, sont complètement parisiennes. Et la cuisine qui était servie dans ces restaurants est largement parisienne et française. N'empêche que le premier restaurant de luxe s'appelle la Grande Taverne de Londres. Pourtant, la cuisine anglaise, jusqu'à un passé récent, était vraiment très très mal considérée par l'ensemble des Français, enfin, sauf exception. Mais la Grande Taverne de Londres, pas pourquoi ? Parce que son fondateur, le cuisinier Beauvilliers, qui par ailleurs a été un des cuisiniers du frère du roi, hein, de Monsieur, donc celui d'ailleurs qui deviendra Louis XVIII après la chute de Napoléon Ier, eh bien Beauvilliers en fait était anglophile. Non seulement il aimait beaucoup la culture politique, disons, britannique, le libéralisme, etc., etc., mais également quand même le mode de vie de l'aristocratie anglaise et des fameuses tavernes qui n'étaient pas du tout des tavernes populaires, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec le nom. Hein. La Grande Taverne de Londres, celle-ci, hein, était en fait un lieu d'accueil pour la noblesse anglaise de province qui, quand elle arrivait à Londres, n'avait pas du tout envie de se mêler aux autres classes sociales. Là aussi, il y avait une société d'ordre. Et donc, la taverne de Londres, dont on n'a d'ailleurs pas d'image, c'est tout à fait étonnant, mais enfin bon, on a des textes, fonctionnait. Et son restaurant, enfin, pas son restaurant, en tout cas sa cuisine, on appelait pas ça un restaurant, était vraiment très huppé. Et donc, Beauvilliers avait ce double modèle. La cuisine des châteaux français, de la haute aristocratie française, voire la cuisine royale, et donc ce modèle anglais. Et ça, il n'y a pas beaucoup de livres qui en parlent. Même si pourtant le nom est un indice quand même, la Grande Taverne de Londres, il faut quand même se poser la question.
Oui, il y a quelques mois une exposition à la Conciergerie d'ailleurs sur l'invention du restaurant à Paris. J'imagine que vous l'avez vu, non ?
Je l'ai vu, oui, mais je veux dire, je suis pour rien.
Ah, vous n'y avez pas participé, d'accord.
Non, je n'ai pas participé parce que, et là, je m'en réjouis. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas un des pionniers de l'histoire de la gastronomie en France. Hein, c'est la génération qui m'a précédé, des gens comme Jean-Louis Flandrin et d'autres, hein, qui nous ont déblayé le terrain, parce que c'est important peut-être de le signaler aussi dans cette émission. Eh bien, la gastronomie au niveau universitaire, jusqu'à la fin du XXe siècle, était quand même considérée comme pas sérieuse, quoi. C'était un objet par rapport aux guerres, par rapport à la grande politique. Et donc, la génération qui m'a précédé a vraiment essuyé les plâtres et a légitimé le champ. Mais pour en revenir à l'exposition, là, elle a été faite par des collègues plus jeunes que moi, et moi, je m'en réjouis parce que maintenant, on est très nombreux, et plus on est nombreux, plus les connaissances dans ce champ universitaire progressent. Donc, c'est parfait.
Si j'évoquais cette exposition, c'était justement pour dire que, manifestement, au XIXe siècle, la cuisine anglaise avait était bien représenté à Paris malgré les considérations qu'on peut avoir dans l'imaginaire collectif. Donc vous avez parlé de la cuisine servie à cette grande taverne de Londres qui s'inspire de la grande cuisine des châteaux, la haute cuisine française.
Voilà.
À quel moment est-ce qu'on invente la cuisine française, qu'elle soit haute ou populaire, parce qu'aujourd'hui, oui, si on regarde les plats préférés des Français, donc il y a le magret de canard qui est une invention assez récente par ailleurs. Il y a le pot-au-feu qui a des origines plutôt rustiques, on l'imagine comme ça. Il y a le couscous, on pourra revenir aussi dessus. Donc il y a un mélange de haute et moins haute cuisine dans ces plats préférés des Français qui constituent donc aujourd'hui un corpus gastronomique français. À quel moment est-ce que ça émerge ?
Oui.
Et à quel moment est-ce que ces deux catégories sociales culinaires peuvent se réunir ?
Voilà, alors on est vraiment dans le côté binaire aujourd'hui, parce que là il y a aussi deux éléments de réponse, si vous voulez. Chronologiquement, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc au milieu du XVIIe siècle, C'est très très lié, je reviens à mes collègues, mes anciens collègues du 19e et du 20e siècle qui considéraient la gastronomie comme pas très sérieuse, mais là c'est très très politique, donc le contexte c'est la montée et la victoire finalement de l'absolutisme en France, ce qui est très particulier parce que par exemple le pays voisin en Angleterre, les rois d'Angleterre n'arriveront pas à prendre ce modèle absolu puisqu'il y aura une résistance de la noblesse. Alors que, vous savez bien, Louis XIV, l'étiquette à Versailles, les nobles sont vraiment, sont très très proches du roi, évidemment, et servent aussi le roi, mais Louis XIV voulait absolument une obéissance également de la noblesse. Bien. Tout ça pour dire donc que milieu du XVIIe siècle, ça part pas vraiment du roi d'ailleurs, Louis XIII est intéressé par la cuisine, mais pas plus que ça, Louis XIV encore moins. C'est une nécessité vitale pour lui, hein, d'être un peu comme Napoléon Ier. En revanche, il se rend compte que dans les cuisines de la très haute aristocratie, donc les familles proches du roi ou très très liées au roi, eh bien, les cuisiniers, c'est vraiment une révolution qui vient des chefs, les cuisiniers français ne veulent plus cuisiner comme leurs homologues italiens, espagnols, français, allemands. Non pas qu'il n'y avait pas de différence, évidemment, entre les cuisines européennes à cette époque-là. On pense à... Il n'y a quand même pas tout à fait le même climat au nord et au sud de l'Europe. Les goûts, d'ailleurs, déjà, on le remarque à la fin du Moyen-Âge, quand on peut faire la comparaison, les goûts, déjà, entre les différents peuples européens ne sont pas identiques. On remarque déjà, par exemple, en Italie, une appétence pour la mer, qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein. Ce qui se retrouve moins ailleurs. Les Anglais aiment beaucoup, beaucoup ce qui est sucré, déjà. Donc, ça va se passer. Ils vont d'ailleurs passer cette maladie au reste de l'Europe.
Il n'y a pas forcément de déterminisme géographique dans ce cas.
Non, pas du tout. Voilà, c'est pour ça que c'est très intéressant, l'histoire de l'alimentation, parce que on s'aperçoit que il faut vraiment aller gratter sous les apparences et que les causes, non seulement sont multiples, mais parfois pas du tout attendues, hein. Donc, faut se méfier des ce qui paraît évident. En fait, bien souvent, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et donc, les cuisiniers français. Et d'ailleurs, l'ouvrage qu'il faut retenir, le titre de l'ouvrage, donc, est un livre de cuisine d'un chef de cuisine qui s'appelle François, donc français à l'époque, François de la Varenne, 1651. Son ouvrage, quand même, ça interpelle. S'appelle Le cuisinier François, le cuisinier français. Et dans son introduction, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui une introduction, il revendique justement cette originalité en disant, c'est pour lancer une mode en fait, hein, et pour lancer une mode, que ce soit vestimentaire ou autre, vous devez évidemment discréditer ce qui se faisait avant ou ce qui se fait à côté de chez vous. Et donc il dit, là c'est pas du tout bien ce qui se faisait avant, et donc c'est, la fameuse séparation en France des saveurs dans un même plat. On va plus mettre du sucré et du salé, de l'acide et du doux.
Fini la cuisine médiévale.
Qui était vraiment européenne pour le coup, avec des différences régionales, d'accord, mais qui était vraiment partagée par toute l'élite sociale en Europe. Là, c'est très très lié, vous voyez, aussi au classicisme français de. On classe les choses, on fait pas n'importe comment, etc. Ce qui explique pourquoi les Français, pendant plusieurs siècles, pas seulement, d'abord les nobles, mais aussi la bourgeoisie, puis ensuite le peuple, va perdre l'habitude de mélanger les saveurs. Et quand, un touriste français, début 20e siècle, ira en Allemagne ou en Angleterre ou en Russie, on va dire, mais ces gens-là, ils savent pas manger, quoi. Ils font n'importe quoi. Alors que nos ancêtres français, pour le coup, je parle pas des Gaulois, mais au XIIIe, XIVe, XVe siècle, mangeaient de la même manière, grosso modo. Vous voyez. Donc il y a ça, hein, c'est 1651. Moi, c'est ce que j'appelle carrément, je crois qu'il faut pas avoir peur des mots. Là, on assiste à une révolution culinaire en France. Hein. Et puis il y a d'autres choses aussi, hein. Il y a beaucoup moins d'épices. Et à la place, on mettra des aromates. Et c'est l'invention progressive des fameuses sauces françaises. La sauce blanche, ça tombe bien d'ailleurs, ça c'est un rapport avec l'économie. Il y a une augmentation des herbages en France, Normandie, etc., etc. Et donc plus de produits laitiers, plus de produits gras, du beurre, etc. Alors que quand on regarde le Moyen-Âge, on n'a pas tant de produits gras que ça. Hein. Sauf peut-être un petit peu autour de la Méditerranée, où bien sûr on a de l'huile d'olive.
Je rebondis sur ce que vous dites. Oui. Cette augmentation des herbages, c'est parce qu'on sort du petit âge glaciaire, c'est une volonté politique, c'est qu'est-ce qui explique ça?
Non, au contraire, on est là, au contraire, dans le petit âge glaciaire. Hein, jusqu'à
encore
la...
dedans, d'accord.
Oui, jusqu'à la Renaissance, le climat n'est pas trop défavorable, et au contraire, à partir du 16e, il y a un refroidissement très très net. Non, c'est simplement que les techniques agronomiques sont en train d'énormément progresser, et voilà, donc c'est... Là encore, vous voyez, hein, c'est un bon exemple de... Il faut aller vraiment chercher les Et là, c'est là aussi où on s'aperçoit que l'économie, la société, le politique, la culture, tout ça, il y a des relations entre. Et nous, en histoire culturelle, on est pas mal placé pour justement faire la jonction et donner une synthèse de tout cela. Et je remercie d'ailleurs les collègues qui sont plutôt qu'historiens économistes ou que sociaux, etc., etc. Parce que c'est quand même à partir de leurs propres études. Nous, on peut pas tout faire nous-mêmes, hein, donc voilà. Mais nous, c'est vrai qu'on a la chance d'être avec la culture un peu amené à regarder un peu tous les domaines de l'histoire, en fait. Donc ça, je vous disais, c'est le premier élément. Et donc, avec cette cuisine française, cette haute cuisine française qui se distingue des cuisines voisines, on va avoir la production d'un discours national sur la cuisine française. Donc, on peut dire que là, il y a une invention de la cuisine française. Mais ce n'est pas la seule parce que, comme vous le disiez, ce qui est un petit peu étonnant quand même, si on en restait à là, on aurait un modèle uniquement aristocratique qui ensuite descend dans la société. La bourgeoisie, fin 18e, 19e, puis les classes populaires dans la seconde moitié du 19e. Donc ça irait du haut vers le bas. Or, on a des plats qui, visiblement, étaient populaires au 17e, 18e et qui se retrouvent dans la nomenclature, par exemple, des restaurants au 19e, si on regarde l'exposition qui était à la Conciergerie. Là, il y a un très très bon livre qui non pas l'explique, mais en tout cas qui détaille ce phénomène, donc plutôt du bas vers le haut. C'est un livre absolument génial qui est parfois pas assez bien considéré par certains de mes collègues, mais moi vraiment j'en fais la promotion. Je trouve ce livre extraordinaire. C'est de Madeleine Ferrière, qui a été longtemps professeur à Aix-en-Provence, et qui s'appelle, le titre, vous allez voir, est très populaire, justement, au pluriel, hein, Nourriture canaille, au seuil, et double publication, c'est-à-dire en collection, disons, grand public, mais aussi en collection de poche. Voilà. Donc là, Madeleine Ferrière montre très très bien les allers-retours entre les cuisines aristocratiques et les cuisines populaires, le gratin dauphinois, des choses comme ça. Et elle a deux, trois chapitres sur la pomme de terre, par exemple, hein, et là on voit bien que cette pomme de terre, d'ailleurs, qui n'était même pas populaire à une certaine époque, au contraire, elle était même rejetée, puisqu'on donnait la pomme de terre aux cochons, parce que c'est pas la pomme de terre qu'on connaît aujourd'hui, c'était là, une pomme de terre toute petite, très noire, sans goût, sans saveur, les gens pauvres n'avaient pas beaucoup de sel à l'époque, vous vous rappelez sans doute que le sel, c'était même, ça servait à l'impôt, donc pour même assaisonner la pomme de terre, c'était pas facile, donc il a fallu attendre, et qu'il y ait aussi des progrès agronomiques, c'est-à-dire que la plante a été améliorée dans les jardins, aussi bien d'ailleurs par des gens inconnus dont on ne retrouvera jamais la trace, que par des botanistes professionnels.
À partir du XVIIe, XVIIIe siècle, on a une cuisine française qui émerge, par le haut ou par le bas. On laisse cuire ça quelques décennies.
Oui, une toute petite précision également, c'est que la France est un pays politiquement centralisé, et que les cuisines justement locales, régionales, vont être d'une certaine manière nationalisées.
Assimilé.
Dans la capitale Paris. C'est-à-dire que Paris va, ce qu'on appelle la cuisine parisienne, est en fait une synthèse, une combinaison de toutes les cuisines françaises, qu'on retrouve pas tellement dans beaucoup de pays, parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup moins centralisés. L'Italie, par exemple, c'est difficile de parler d'une cuisine nationale italienne avant, disons, la deuxième moitié du XXe siècle. Parce qu'auparavant, il y a de très très grosses différences entre le nord et le sud. Je vous en donne une seule. On a l'impression aujourd'hui que les pâtes et la tomate, la sauce tomate, donc les pâtes à la tomate, la sauce tomate, ça vient de, je sais pas quoi, de, pas des Gaulois, mais des Romains justement. Pas du tout. C'est pas avant la deuxième moitié du XIXe siècle, parce que la culture du blé est très 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 faible dans le nord de l'Italie. on mange plutôt du riz, la polenta, etc., des choses comme ça, du maïs, hein, le riz, le maïs. Et donc, l'extension des pâtes vers la moitié nord de l'Italie, avec un petit peu évidemment, mais relativement peu, date seulement du 19e. Même chose pour la tomate, qui en plus est une plante, évidemment, comme vous savez, américaine.
Donc oui, il faut attendre l'unité d'un pays pour que quelque chose... ressemble...
Pas forcément attendre au sens, si vous voulez, l'histoire, elle marche un peu toute seule aussi, mais pour que vraiment ça soit une cuisine nationale au sens où on l'entend aujourd'hui, oui, il faut une unité, donc l'unité italienne, hein, c'est 1861.
Revenons donc à notre cuisine française, on reparlera de toute façon d'autres cuisines nationales un peu plus tard. Donc, elle émerge au XVIIe siècle, à quel moment est-ce que elle rayonne. À quel moment est-ce que, d'un coup, la cuisine française devient une cuisine de référence jusqu'aux années 2000, comme vous l'avez dit?
C'est très rapide, à l'échelle historique. C'est pas en un an, si vous voulez, mais en quelques décennies après les premiers livres donc de la Varenne, mais il y a d'autres cuisiniers. Hein. Mon cuisinier favori de l'époque, il est à cheval entre le fin 17e, début 18e. C'est un autre François, d'ailleurs, François Massialo, qui a vraiment, vraiment eu une très, très grosse influence. Eh bien, ses livres de cuisine sont lus à l'étranger, rapidement. Vous avez des lecteurs français dans l'aristocratie. Et puis, vous avez aussi des traductions. Le cuisinier français, le fameux cuisinier français de la Varenne, 1651, première traduction à Londres en anglais, 1653.
C'est-à-dire qu'il a pas de temps.
Voilà, il a des collègues. Bah, à l'échelle là, de cette époque, c'est vraiment très rapide. Il a donc des collègues anglais non francophones qui peuvent découvrir sa cuisine directement donc, dans leur langue nationale. Donc déjà ça. Et puis, l'autre phénomène, c'est que... alors. C'est vrai qu'il faut bien comparer, je pense, d'abord France et Angleterre, plutôt qu'avec d'autres pays. Ça a été fait d'ailleurs par un sociologue irlandais, mais qui a fait de la sociologie historique, hein, dans son fameux livre « Français et Anglais à table », Stephen Maynell. Et donc la comparaison est très intéressante, donc, parce qu'on n'a pas la même structure politique. La noblesse ne joue pas exactement le même rôle en Angleterre et en France. Il n'y a pas tout à fait la même centralisation, même si Londres est quand même est une autre capitale quand même qui a concentré beaucoup de population en Europe. Il n'y a pas tant d'exemples que ça, hein, si on regarde l'Italie, l'Allemagne évidemment, qui sont beaucoup plus... Il n'y a pas d'aussi grandes villes comme ça qu'à jouer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de centralisation politique. Eh bien, en Angleterre, vous avez une double réaction par rapport à cette haute cuisine française. Vous avez une réaction, j'oserais pas dire nationaliste, mais un peu quand même. C'est-à-dire que l'adjectif n'existe pas à l'époque, puisque la nation moderne, c'est seulement 1789. Mais enfin, une réaction, on va dire, nationale, de rejet, en disant, oulala, c'est pas de chez nous, les Français sont très gentils, mais c'est d'abord nos adversaires quand même géopolitiques pendant pas mal d'années. Et puis, ils se poussent du col, ils disent qu'ils ont... Ils ont bien vu que la Varenne et Massialo et les autres, et puis c'était Louis XIV, le souverain le plus puissant, qui inquiétait énormément la puissance anglaise, eh bien, les Anglais ont vite vu que c'était un instrument de domination possible, en tout cas de prestige national pour les Français. Donc il y a un rejet, surtout aussi parce qu'on était attaché simplement aux cuisines provinciales anglaises, donc on n'allait pas prendre cette cuisine. Donc il y a beaucoup, beaucoup de textes en 1710, 1730, pour contrer l'influence française, on a une réaction, et en particulier à partir d'un produit consommé qui ensuite va devenir péjoratif contre les Anglais, le fameux roast beef. Le roast beef, avant 1710-1730, et donc cette querelle franco-anglaise, n'est pas du tout revendiqué par les Anglais. Mais alors, quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Hein. On n'a aucun texte là-dessus. N'est pas revendiqué comme un élément culturel national. Alors que pour se forger une identité, il faut prendre des exemples. Et donc, ce qui différencierait, soi-disant, hein, les Français et les Anglais dans leur cuisine, c'est cette viande rôtie, le roast beef anglais, alors que les Français mangent ce qu'on appelle les ragoûts, c'est dans les textes anglais. Hein. C'est évidemment des caricatures, mais ça va devenir des stéréotypes. Ça, c'est une partie de la réaction anglaise. Mais il y a une autre partie de l'aristocratie anglaise qui dit, mais attendez, ce sont les Français qui sont à la mode, pourquoi nous, anglais, on resterait entre guillemets provinciaux. Donc qu'est-ce qui se passe dès le début du 18e? Des chefs anglais traversent la Manche, non pas volontairement, enfin volontairement oui, mais je veux dire, c'est pas de leur initiative, ils sont embauchés par des aristocrates anglais. Et c'est de là que ça commence. Et c'est redoublé fin 18e siècle et sous l'Empire, quand les Français donc inventent le restaurant, mais avec parfois enfin, une petite influence anglaise quand même, eh bien ce modèle du restaurant français, parisien, va énormément faire pour la réputation des chefs français. Enfin, troisième élément, c'est que les Français, non seulement ont fait des livres de cuisine quand même assez performants, et des hommes, hein, des chefs masculins, contrairement aux livres de cuisine anglais, qui sont plutôt, enfin, moitié-moitié, mais enfin, il y a beaucoup de femmes, plutôt des, donc de la cuisine domestique, on va dire.
Madame Beaton, par exemple.
Oui, au 19e siècle, mais elle a des grandes prédécessrices, c'est pas facile à dire, au 18e siècle, Elisabeth Raffalde, par exemple. Et donc, si vous voulez, quand je dis domestique, c'est pas forcément des pauvres, hein, c'est pas forcément de la cuisine populaire, hein, c'est la cuisine à la maison, mais ça peut être, bien sûr, dans la noblesse de province anglaise. Donc vous avez cette grande différence, et donc le modèle français vraiment se distingue, et les livres de cuisine, La Varenne, Massialo, etc. Et puis surtout ensuite, moi ce que j'appelle, là aussi j'ai pas peur des mots, donc vers 1800, ce qu'on appelle donc une révolution gastronomique, ça c'est une révolution du discours. Les Français produisent un discours, alors non seulement qui codifie les règles de cuisine en disant faut faire ça mais pas ça, Carême surtout, hein, Antonin Carême. On a un discours prescriptif, vous voyez, même un peu autoritaire, ce qui est beaucoup moins le cas en Angleterre ou ailleurs, où chacun fait un peu ce qu'il veut, selon sa mode. Et donc, quand il y a le restaurant, ben le restaurant, on peut évidemment faire le restaurant de différentes manières, mais il y a quand même des contraintes de temps. Comment organiser ce que fera Escoffier, hein, son fameux guide culinaire, donc comment organiser une brigade en 1900. Mais déjà avant, les questions se posent, et les Français paraissent supérieurs dans l'organisation parce qu'ils ont codifié tout ça. Donc ça va faire beaucoup pour cette idée que la France serait supérieure, vous voyez. Il y a vraiment beaucoup de raisons, en fait.
Ça fait un modèle à copier, on n'a pas besoin de réinventer la roue.
Oui, puis c'est un modèle, en plus, c'est ce qui est in, c'est ce qui est vraiment à la mode. Donc, pourquoi ils ont une avance? Bon, ben, c'est comme, on peut prendre, je ne sais pas, moi aujourd'hui, il y a des pays qui sont un peu plus en avance en informatique que d'autres, voilà. Si on ne veut pas les suivre, ben tant pis, on reste complètement arriéré, et voilà. Hein, donc, vous avez, et donc, par exemple, un chiffre qui est quand même, je parle bien des chefs de cuisine, c'est-à-dire ceux qui dirigent le restaurant, hein, je ne parle pas de tout le personnel. En 1914, vous avez dans le monde, donc hors de France, 5000 chefs de cuisine français qui officient dans les grands hôtels, restaurants, et là c'est tous les continents, puisqu'on a l'époque coloniale, évidemment, vous en avez en Afrique, vous en avez en Amérique du Sud, vous en avez en Asie.
Un des phénomènes qui explique le succès de la cuisine française dans le monde, c'est donc sa codification et le fait que l'essentiel des savoirs, des personnels sont réunis, sont centralisés à Paris notamment. Une grande invention culinaire parisienne, ça reste la baguette. Comment est-ce que d'un pain extrême, finalement très local, on transforme ça en symbole national?
Oui.
Puisque vous êtes spécialiste du pain aussi.
Oui, oui, oui. Alors spécialiste avec la personne que vous avez citée tout à l'heure, donc
Colin Arnaud.
Colin Arnaud, on a vraiment fait le livre là qui s'appelle donc Pain et Liberté, une histoire du politique du pain du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. On l'a vraiment fait main dans la main, on pourrait dire. Donc on est aussi important l'un que l'autre, hein, dans cet ouvrage. D'autant que Colin avait fait une thèse d'histoire sur la pâtisserie française entre 1870 et 1914. Donc elle a même une connaissance, si vous voulez, du métier de boulanger qui est très nettement plus étendu que la mienne, hein. Donc voilà. Alors, je partirai pas de la baguette, mais je vais y revenir, hein, parce que c'est aussi très très intéressant pour ce qui se passe, disons, depuis 30 ans sur la planète, donc pas seulement en France. Mais l'identité, l'alliance français-pain, bien entendu, à l'étranger, c'est le français avec son béret et la baguette. Mais ça, c'est une image du XXe siècle. C'est-à-dire que, en fait, la baguette, contrairement à ce qu'on lit sur Internet, hein, ou ce qu'on entend à droite à gauche, il faut dire que la question est compliquée, donc on ne peut pas non plus trop jeter la pierre à ceux qui se trompent, mais il ne faudrait pas se contenter, si vous voulez, de répéter ce qui est marqué. C'est ça le problème d'Internet, où voilà, il faut un petit peu aller chercher un peu plus loin. La baguette, au sens comme on la connaît aujourd'hui, hein, donc ce pain finalement d'un poids relativement faible, hein, par rapport aux grosses miches de pain traditionnelles qu'on avait en France et dans l'Europe depuis le Moyen-Âge, la baguette, son apparition, c'est seulement après la guerre 14-18. Donc c'est pour ça que je vous dis, hein, le français avec son béret et sa baguette...
Oui, c'est très récent.
C'est récent, en fait, c'est le 20e siècle. Mais alors pourquoi ça marche? Parce qu'auparavant, vous avez eu une intégration du pain dans la culture, on peut le dire, nationale. Alors beaucoup plus que dans d'autres pays, parce que, encore une fois, c'est un problème de centralisation politique. En Italie, vous avez des pains extrêmement différents d'une région à l'autre. Et donc, parler d'un pain italien tout court, c'est un petit peu difficile.
Il y a la ciabatta, mais qui est très récente elle aussi.
Qui est relativement récente, et puis qui n'est pas reconnue, enfin qui, maintenant elle est consommée un peu partout en Italie, parce qu'il y a une influence, on va dire, nationale, mais traditionnellement, c'était pas ça. Alors qu'en France, on a le rôle, encore une fois, de Paris. À Paris, depuis au moins le XVIe siècle, il y a une volonté, un désir des pauvres, de la population la plus défavorisée, mais qui est largement majoritaire, hein, dans une ville qui fait déjà plusieurs centaines de milliers d'habitants, hein, de manger à peu près, il ne faut pas non plus exagérer, mais le même pain que les plus riches. Or, le pain que mangent les riches en France, hein, c'est très différent en Allemagne, très différent en Angleterre, c'est un pain dérivé, fabriqué avec la farine de froment, c'est-à-dire un pain blanc. Donc Michel Pastoureau pourrait interpréter, c'est pas trop le sujet là, mais le blanc sans doute, la pureté, etc. Mais comme il l'explique très bien pour toutes les couleurs, chaque couleur peut être interprétée de manière différente selon les époques, même parfois de manière totalement paradoxale et contraire, hein. Enfin bon, le pain, on peut penser que c'est la pureté, et donc c'est une couleur vraiment très positive pour l'aristocratie, donc elle mange ce pain blanc, en plus la farine de froment, ça donne une belle mie, etc., et aussi une belle croûte, parce que faut voir aussi que le pain est intéressant, parce qu'il mêle deux textures, hein, bien. Et le peuple a ce désir à Paris, hein, pas forcément en province ou dans les campagnes, mais à Paris, il y a ce désir d'imiter, et donc c'est, on peut dire, même une revendication. Et il y a le fameux pain, ce qu'on appelle le pain de Gonesse. Gonesse, c'est la plaine en partie aujourd'hui occupée en fait par l'aéroport de Roissy, donc des très belles terres à blé, et ce qu'on appelle un marché forain, c'est-à-dire que Paris, bien sûr, il y a des barrières d'octroi quand on entre et on sort de Paris, mais donc le pain de Gonesse entre, hein, donc les marchands, les producteurs, les meuniers, les boulangers de Gonesse viennent vendre les farines de cette plaine, la plaine de France, en fait, hein, ce qu'on appelle Roissy en France, c'est pas la France, le pays, c'est la petite région France, là au nord de Paris, et ce pain de Gonesse donc est très réputé pendant tous les 16e, 17e, 18e siècle. D'ailleurs, ce qui provoquait une réaction de l'aristocratie qui sophistiquera, oui, de plus en plus le pain qu'ils consomment pour, comme le peuple est en train un peu de les rattraper
pour maintenir
le pain
un statut.
Blanc, pour maintenir ce que Bourdieu appelle, hein, la distinction. Voilà. Donc c'est aussi des phénomènes très intéressants. En fait, tout ça pour dire que la mode du pain blanc en France va aussi se répandre depuis ce modèle parisien. Alors qu'auparavant, on utilise des céréales dans le sud, par exemple, réputées plus pauvres, entre guillemets. Je dis plus pauvres parce que les sols sur lesquels poussent les autres céréales, donc le seigle, etc., sont des terres plus arides, plus sèches, etc. Pas comme les belles plaines de Beauce, de Brie, de France, etc., etc. Donc, vous avez ce mythe, hein, c'est vraiment quelque chose qui devient... Pas global, puisque dans toutes les régions, vous avez encore du pain de seigle ou des farines mélangées encore pendant très longtemps. Cela dit, le pain blanc devient un pain national. Et la baguette va procéder donc de cette de ce type de pain. Et puis comme cette baguette elle se transporte facilement, je pense que les touristes à l'étranger vont beaucoup voir dans les années 20, dans les années 30. D'ailleurs, on fait pas trop la distinction avec un pain qui est plus gros, plus lourd, mais bon, bien souvent on va confondre baguette et pain, quoi. Donc on aura l'image du français avec le béret et avec la baguette, qui peut donc ne pas être une baguette.
Donc on a défini un modèle culinaire français qui se distingue surtout par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension, comme vous l'expliquiez avec la baguette, il y a une compréhension du symbole gastronomique français parce que c'est des images d'Épinal qui sont vues par les touristes étrangers. Comment est-ce que dans le pays, on s'approprie la cuisine nationale? Comment est-ce que la blanquette, qui est un fondamental de la grande cuisine bourgeoise, devient un plat qui se prépare encore beaucoup les dimanches dans les familles en France?
Oui, ben, plusieurs explications. La principale, je pense, c'est l'influence du restaurant parisien en province. Même si en province, bien entendu, on peut trouver des restaurants qui vont plutôt faire une cuisine locale, régionale. La formation des cuisiniers passe souvent par Paris. Et donc là, il y a le modèle parisien, encore une fois, ce modèle de synthèse de toute la France. Et en plus, le discours, on va dire, national est quand même très, très important. Donc, certains clients, quand ils vont en province, vont aller chercher plutôt quelque chose d'original, donc des cuisines plus locales. Mais bien souvent, quand même, on a aussi une clientèle qui aime bien avoir une cuisine nationale, que ce soit en France, à l'ouest, que ce soit au sud, à l'ouest ou au nord. Donc beaucoup de restaurants vont proposer cette cuisine finalement de fusion nationale qu'on trouve à Paris.
Et vous parlez de la cuisine parisienne comme d'une cuisine synthétique finalement, qui synthétise donc les différentes régions. Mais est-ce qu'il n'y a pas une cuisine parisienne régionale?
Oui, on peut la distinguer sous le Second Empire, par exemple. On voit qu'il y a certains restaurants qui prennent beaucoup les produits locaux. Mais très 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 vite, ces produits locaux sont, je dirais, noyés, mais pas péjorativement, hein, ils sont un peu noyés dans un ensemble beaucoup plus national. L'autre chose qui sert beaucoup à la propagation de la cuisine nationale dans toute la France, c'est bien entendu l'amélioration des moyens de transport. Beaucoup de produits alimentaires sont des produits périssables. À partir du moment où vous avez un réseau de voies ferrées, les temps de transport, évidemment, sont beaucoup plus longs qu'avec le TGV aujourd'hui. N'empêche que ça va quand même révolutionner. Et puis, encore une fois, un réseau qui est centré, vous savez, en étoile sur Paris. Donc, vous voyez, tous les détails sont importants pour comprendre cette influence parisienne.
Et c'est vrai, pour juste aller ajouter un autre élément à ce que vous dites, en matière de vin, c'est vrai que l'apparition du chemin de fer a complètement redessiné la carte des vignes français.
Parce que le vin, c'est bien de le produire, mais il faut le vendre.
Ouais, c'est ça. Et le marché, le plus gros marché étant parisien, la concurrence des vins du midi au vin francilien a été fatale au vin francilien.
Parce qu'on voit qu'entre 1800 et la crise du phylloxéra, donc 1880, la production vinicole en France augmente, je n'ai pas les chiffres en mémoire, mais c'est vraiment exponentiel.
Donc on conçoit la cuisine et l'identité culinaire nationale maintenant à peu près globalement dans le courant du 19e et tout au long du 20e siècle, en France en tout cas. À partir de quel moment émerge la notion de plat national? Est-ce qu'il y a un plat national en France? D'après vous, quel est le plat national français d'ailleurs?
Oui, ben, il y a un sondage à peu près tous les ans, hein, qui est fait.
Oui, mais ça change tous les ans du coup.
Non. Il y a quand même des plats vedettes qui reviennent actuellement. Et évidemment, le plus intéressant dans la liste, c'est qu'on a le couscous.
Oui.
Et le couscous qui, pour le coup, vient pas de l'espace, en tout cas hexagonal.
Frontalier, oui.
Voilà, national dans le sens où, bien entendu, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc ont été des colonies françaises, et encore jusque dans les 50-60. Mais bon, c'est pas un plat, en tout cas, des régions, des provinces hexagonales françaises. Donc le plat national, ben oui, cette histoire de plat national, on peut se poser aussi la question, évidemment, pour les autres nations. En fait, il y a, comme en histoire, avec le temps, ça change. Alors, le plan national, si on lit bien Madeleine Ferrière, et puis si on lit aussi nos cuisiniers de la Belle Époque, là, Escoffier, puis alors j'aime bien quand même citer mon cuisinier favori, j'aime bien Escoffier, hein, mais c'est toujours lui qu'on cite parce que c'est lui qui a la plus grande carrière, la plus prestigieuse, le Ritz, il a écrit ses mémoires, mais celui qui était vraiment son alter ego et son équivalent au niveau des talents et qui a aussi beaucoup écrit, mais ses écrits sont très dispersés, c'est Prosper Montagnier. Donc c'est ensuite l'avis de toutes ces personnes. À cette époque, donc 19e siècle, et donc même un peu avant, ça aurait été alors un plat qui maintenant paraît vraiment vieillot, voire il est même, je crois, difficile d'en trouver à Paris, dans un restaurant, c'est le pot-au-feu. Origine donc populaire.
C'est plutôt un plat domestique, effectivement.
Eh oui, oui. Eh oui, mais qui peut être sophistiqué à l'époque. Au Ritz, Escoffier, ou au Grand Hôtel, vous savez, le Grand Hôtel, c'est en fait le restaurant du Café de la Paix, hein, Place de l'Opéra. Vous savez que c'est un grand complexe, en fait, hôtelier et de restauration. Vous avez un plat qu'on appelle, donc, sur la carte, dans les entrées, qu'on appelle la petite marmite. Alors, la petite marmite, c'est un consommé plutôt qu'un bouillon, mais enfin, quand vous regardez les ingrédients, c'est du pot-au-feu, servi évidemment dans des belles assiettes en porcelaine, dans une belle soupière en argent, etc. C'est donc un plat de luxe, mais c'est tout à fait ce qu'explique Madeleine Ferrière. Donc oui, c'est pas seulement un plat populaire quand même, mais ça serait un plat national dans le sens où c'est un plat dans lequel se reconnaissaient aussi bien d'ailleurs les Français urbains, récemment souvent ruraux, puisque vous avez un très fort exode rural au 19e siècle, et bien sûr toute la France des campagnes, puisque quand vous regardez ce que mangeaient les paysans et les artisans des campagnes jusqu'en 1789 et encore au 19e siècle, c'était une sorte de pot-au-feu, c'est-à-dire la grande marmite qu'on suspend au-dessus du feu de la cheminée, et on met ce qu'on a, c'est-à-dire quand il y a des légumes, oui, en général, si on a un morceau de viande, c'est bien, mais pas toujours. Et donc c'est ça qui ferait quand même l'unité culinaire française, mais qui ça peut plus être le cas aujourd'hui. Parce que la France et les origines rurales, c'est quand même deux choses différentes maintenant. Et puis, il y a eu une telle diversification, on ne peut que s'en réjouir des recettes et des plats qu'on peut manger en France, que le pot-au-feu s'est vite retrouvé submergé. Et donc, la préférence va plutôt au magret de canard, au couscous, etc. Des plats qu'on pourrait dire plutôt, vous voyez, de cuisine, on va dire, des classes moyennes, mais qui représenteraient bien la France aussi, d'une certaine manière.
Mais c'est intéressant cet exemple de plat national, parce que dans d'autres pays, la détermination du plat national, ça peut être un enjeu politique assez important. Dans le recueil que vous avez co-dirigé, donc Gastronomie, Identité culturelle française, il y a toute une entrée sur la cuisine hongroise, et qui montre que voilà que la cuisine a permis, la cuisine hongroise par ses plats emblématiques a permis vraiment d'affirmer une identité nationale. Ça me fait penser que cet enjeu-là de détermination du plat national, est-ce que c'est pas donc un enjeu avant tout politique et force est constatée que dans les années qui ont compté pour l'affirmation de cette identité nationale française, en tout cas pour la France, donc dans les années de la fin du 19e jusque dans les années 30, on a vraiment l'impression que la gastronomie, c'est de droite.
Oui, alors sur cette importance politique du plan national, vous avez tout à fait raison. En histoire culturelle, on a des petits mots techniques comme ça, mais qui sont très simples. Je trouve qu'on a la chance de, si on fait un peu attention, hein, et si on surveille, de pas trop jargonner par rapport à d'autres disciplines. Mais donc les mots-clés, là, seraient donc le plan national, par exemple. Nous, on appellerait ça un marqueur culturel. Il y en a en musique, par exemple. Il y a énormément de points communs entre l'histoire culturelle de la gastronomie et l'histoire culturelle de la musique. Je vous dis ça parce que j'échange beaucoup avec un ami avec lequel j'ai co-dirigé un autre ouvrage, mais on parle aussi pas mal de nations et de rapports entre goûts nationaux, qui s'appelle « Le goût des autres ». qui est un qu'est-ce qui se passe quand on découvre un plat, une recette qui vient d'ailleurs, etc. Donc c'était bien sûr un hommage au film hein, du regretté Jean-Pierre Bacri. Et donc l'autre mot, ça serait, et là c'est complètement de la famille dans le champ sémantique du titre de l'émission d'aujourd'hui, donc pas identité, mais identification. C'est-à-dire qu'il y a un processus, il y a un moment donné où quelque chose, enfin les gens vont s'approprier, vont dire que ça, ah bah oui, c'est leur identité, qu'elle soit régionale, nationale, etc. Donc l'identification, c'est extrêmement important. Et donc je vous dis, en musique, en fait, c'est plus que la musique et la gastronomie, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé, Didier Francfort et moi, que en fait, c'est toutes les activités qui ont un lien avec le corps. Autrement dit, il ne faut quand même pas oublier que l'alimentation, la musique, mais l'alimentation peut-être encore plus que la musique, c'est quelque chose d'extrêmement sensoriel. L'alimentation, c'est les cinq sens, quand on regarde bien. Il n'y a pas tellement de choses qui touchent les cinq sens. Même la musique, la vue, oui, alors la vue de l'orchestre, quand vous... c'est moins net. Hein, donc, enfin bon, bref, en tout cas, ce qui a une corporalité... les gens, évidemment, pour les gens, c'est très important et c'est aussi important de manière inconsciente. C'est-à-dire que c'est pas forcément réfléchi. C'est-à-dire que ça va avoir une importance pour eux sans même qu'ils s'en rendent vraiment compte. Et c'est simplement quand on parle avec eux qu'ils se disent ah, mais oui, etc. Vous voyez? Et donc, je dirais que c'est très important au niveau politique, je vous dirai pourquoi après. Ça va toucher ce qu'on appelle donc les affects. Or, les affects, c'est quelque chose qui se manipule, qui peut se manipuler très facilement par des hommes politiques. On a un exemple, ça a été démontré par beaucoup, beaucoup de livres, c'est l'exemple du fascisme en Italie. Le discours fasciste italien, d'ailleurs, quand il faudrait définir ce que c'est que l'idéologie fasciste, ouais, on voit à peu près, mais en fait c'est très compliqué, et personne ne sait exactement, mais en fait ce qui est beaucoup plus facile à déterminer, c'est ce à quoi s'adresse le discours politique fasciste, à des affects en fait, et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche, parce que quand on réfléchit bien, il y a plein de contradictions dans le fascisme. Alors des contradictions énormes. Je parlais de l'histoire de la politique, l'unité italienne est très récente. Mussolini n'a jamais pu trancher entre favoriser les régions ou favoriser la nation. A priori, c'est plutôt la nation, puisque c'est la nation italienne, etc., ça, le nationalisme. Mais les régions sont tellement, tellement encore vivantes en Italie à cette époque-là. Il y a encore beaucoup de gens qui parlent les dialectes, etc., etc. Enfin, vous voyez, c'est très, très, très compliqué. Par contre, alors, si le fascisme italien est resté si longtemps populaire, je sais bien qu'il se maintient par la violence, mais ça n'explique pas tout, la violence. Hein. C'est pas parce que c'est une dictature. Il y a aussi pas mal d'Italiens qui sont tout à fait consentants, mais même qui sont assez convaincus par le fascisme. Sinon, il n'aurait sans doute pas duré 20 ans. Idem, bien sûr, pour le nazisme. Et donc, alors, on a l'impression que c'est de droite. Alors là, je dirais quand même oui et non pour la France. Et donc, c'était pour le livre que vous avez cité, qui a déjà 20 ans. Le temps passe vite, mais on y a réfléchi depuis. En fait, vous avez deux discours gastronomiques identitaire en France, et puis on peut généraliser à d'autres. Vous avez un discours identitaire fermé, qui va effectivement utiliser la gastronomie ou la musique, enfin bon, tout ce qui est culturel, tout ce qui a une corporalité, dans un sens qu'il y a nous et les autres. Hein, c'est-à-dire que ça, c'est nous, et les autres, ils mangent autrement, ils boivent autrement. Quand ils sont chez eux, là, en Extrême-Orient, comme le dit Kurnonsky, quand il fait un beau voyage en Indochine, quand il est jeune, il est très, très, très séduit par la cuisine chinoise et indochinoise. Mais quand il revient en France et quand il écrit dans la presse, c'est quand même un des papes de la gastronomie, dans tous les médias français dans les années 20-30 et jusqu'à sa mort dans les années 50, Kurnonsky dit non, ça, c'est pas français. Alors qu'il n'a pas un a priori contre au niveau gustatif, mais au niveau, là, pour le coup, politique et nationaliste, oui. Et je dirais même, donc le mot-clé, c'est même pas tellement nationaliste, c'est essentialiste, sa fameuse formule, les choses doivent avoir le goût de ce qu'elles sont. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le cuisinier, il n'a pas le droit de modifier les saveurs, de les combiner, ça n'a pas de sens quand on y réfléchit bien. Mais donc c'est de l'essentialisme, c'est-à-dire que la France a une histoire qui est mythifiée, qui est mythique, etc., etc. Elle ne doit pas sortir de là.
Hein. En plus de Kurnonski, il y a Léon Daudet, donc, qui était rédacteur en chef de l'Action française.
De l'Action française, royaliste, anti-Dreyfusard, antisémite, etc., etc. Oui.
Et qui, dans l'Action française, publiait des discours éditoriaux à vocation gastronomique.
Ah, complètement, oui. Il y avait grand gastronome. D'ailleurs, moi, j'aime bien le lire pour ces, pour cela, hein, pour ces douanes. Il était, en plus, il a cette double casquette française, souvent, d'avoir des connaissances médicales, donc diététiques et gastronomiques. Parce que, aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, vous avez souvent un discours vraiment complètement contraire entre le plaisir gastronomique et, finalement, on mange parce que c'est une nécessité. Alors qu'en France, bien souvent, on a l'alliance des deux. Donc c'est un auteur aussi intéressant. Et ça rejoue ensuite, après la guerre, 1945, donc le troisième journaliste, donc Kurnonski, Daudet. Et après la guerre, leur héritier, en fait, c'est Robert Courtine, qui a écrit pendant plus de 30 ans les chroniques gastronomiques dans le journal Le Monde. Or, Robert Courtine, il a été quand même repêché en 1944-1945 à Sigmaringen avec le maréchal Pétain et... et Pierre Laval. Il y avait un procès d'ailleurs, d'épuration, et comme le fondateur du journal Le Monde, Hubert Beuve-Méry, qu'il connaissait précédemment, connaît très très bien les articles antisémites et autres de Courtine pendant l'occupation, mais il se dit que la rubrique culinaire, gastronomique, oh, c'est pas politique, hein, on peut... c'est pas un mauvais bougre, c'est un bon compagnon de table, Robert Courtine, donc on peut le prendre. Or, en fait, si on lit bien, il y a une étude, d'ailleurs, Didier Francfort, dans le livre « La gastronomie, identité culturelle française », si on lit bien, entre les lignes, certaines, pas toutes, chroniques de Courtine, dans Le Monde, y compris dans les 70-80, c'est hyper politique. Et donc, je vous disais, pour finir la réponse, vous avez un deuxième discours gastronomique français, identitaire aussi, c'est vrai, hein, puisqu'Escoffier n'est pas du tout comme Daudet, mais il a aussi ce discours, les Gaulois, etc., etc. Oui, mais Escoffier, Montagnier et les autres, là, donc plutôt les Républicains, ont une conception de l'identité française et d'identité culturelle ouverte. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'il y a plein de produits qui viennent de l'étranger, que en fait c'est absolument génial pour un cuisinier, un chef, de mélanger tout ça, mais attention de quand même les franciser. C'est-à-dire que les grands chefs français ne vont pas un peu faire comme leurs collègues anglais qui vont reprendre presque, je dis bien presque, il faudrait souligner le presque, il y a quand même des différences, des plats, des recettes qui viennent d'Inde par exemple, toutes les recettes avec le curry. Les Français, eux, vont prendre deux éléments au maximum qui viennent de l'étranger et ils vont les intégrer dans leur codification, leur fameuse codification nationale. N'empêche que c'est quand même une cuisine ouverte. Moi j'avais étudié ça, donc dans toutes les revues où écrivent Escoffier et Montagnier, vous avez une curiosité, mais absolument remarquable, envers les cuisines étrangères, pas seulement comme ça d'un point de vue touristique, mais bien peut-être pour en faire quelque chose dans la cuisine française. À condition, encore une fois, mais c'est un petit peu la même chose pour la population, vous savez bien qu'en France on fonctionne selon le droit du, non pas du sang mais du sol, et que, bon, à partir du moment où déjà vous êtes né en France, quelle que soit l'origine de vos parents, vous êtes considéré comme français au niveau du droit. Mais ça veut dire qu'il y a une assimilation. Vous restez pas... vous pouvez continuer à parler une autre langue, mais en général, quand même... ce modèle, quand même, conduit à une assimilation des étrangers en France. Ben pour la cuisine, c'est pareil. La France aime bien prendre des choses à l'étranger. Au contraire, même, elle est très très curieuse, contrairement à, là encore une fois, une idée reçue qui est complètement fausse. Hein. Mais il faut mettre ça dans la codification française, dans les règles françaises.
Et d'ailleurs, Montagnier, que vous avez cité, disait que faisait remarquer en 39 que le cassoulet
très bon exemple, oui.
Que le cassoulet, finalement, il ressemble vachement au ragoût de mouton aux fèves blanches que les Arabes ont fait connaître aux habitants de Carcassès en l'an 720.
Puis c'était une question qui lui était à laquelle il était sensible, puisque bien que cuisinier parisien, donc avec cette fameuse synthèse parisienne des provinces, il était originaire justement de Carcassonne. Et donc, il connaissait bien les origines du cassoulet, qui sont totalement masquées par l'autre discours gastronomique identitaire fermé, qui vous trouvez jamais Kurnonski ou Daudet ou d'autres qui vont insister sur l'origine arabe du cassoulet, ou alors en passant maintenant comme ça, je ne vais pas citer des journalistes gastronomiques actuels, mais il y en a hein, qui ont ce discours fermé, vous n'êtes pas forcément à l'extrême droite d'ailleurs, mais ils ont ce discours essentialiste. Eh bien, ceux qui ont le discours ouvert, au contraire, eux prennent un marqueur et disent bah, « Attendez, il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. » Et là, le texte hein, que vous citez, c'est le contexte important, c'est les années 30, avec cette montée terrible de la xénophobie et de l'antisémitisme dans la presse. Ces deux fléaux idéologiques et politiques sont véhiculés hein, par des gens comme Kurnonsky, même si c'est quelqu'un là comme Courtine, je suppose, même si j'en suis sûr, était vraiment un très bon compagnon de table avec plein d'humour, sans doute beaucoup de côté bonhomme d'ailleurs. C'était pas forcément quelqu'un qui aurait été à la police dénoncer les juifs en 40 par exemple. Il y en a qui l'ont fait hein, comme l'écrivain Céline, mais Kurnonsky j'imagine pas comme ça. D'ailleurs il avait fui Paris hein. Il a passé toute l'occupation en Bretagne. On mange bien en Bretagne, à Rieck-sur-Belon, vous voyez, donc vous voyez ce qu'il pouvait
manger. Oui, peine n'importe où, oui.
Voilà, donc bon, vous voyez, il ne faut pas non plus caricaturer cette pensée identitaire fermée, n'empêche que bon, elle n'est pas forcément sympathique politiquement, voilà.
Dernier point que je souhaitais aborder dans l'émission, donc vous avez parlé de la grande cuisine française qui essaime dans le monde jusqu'aux années 2000. Aux alentours des années 2000, il y a une crise d'identité finalement de la cuisine française. On pense à l'article du New York Times qui met en valeur un certain Ferran Adrià et qui met au banc la cuisine française. Aujourd'hui, c'est quoi la place d'une cuisine nationale, la cuisine française ou autre, dans un monde extrêmement connecté, extrêmement mondialisé? Est-ce que ça a un sens aujourd'hui alors qu'il y a je ne sais pas combien de restaurants dits japonais à Paris par exemple, où c'est assez simple de voyager par l'assiette dans toutes les grandes villes de France?
Alors c'est certain que l'évolution actuelle provoque deux discours là aussi pas très sympathiques. À l'étranger, on a l'impression quand on écoute certains journalistes américains, anglais, etc. Ah là là, ils tiennent leur revanche. La haute cuisine internationale française est très concurrencée et ça leur fait plaisir visiblement. Bon. Et en France, il y a ce discours nationaliste qui regrette évidemment de voir cette concurrence parce que, même au point de vue économique, ça a des conséquences évidentes. Il n'y a plus seulement les chefs français qui s'exportent. Et puis c'est tellement dans notre identité culturelle que ça nous fait un petit peu mal quoi, de voir cette cuisine française qui était un nos fleurons, comme on dit dans ce discours. Il y a un vocabulaire qui est très qui revient sans arrêt, hein, qui devient un stéréotype, en fait, à force d'être répété. Donc, très bien. En fait, bon, scientifiquement, soyons un peu immodestes, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, je pense que les Français et les Françaises auraient tout à fait tort de s'inquiéter de l'évolution actuelle. Alors, c'est pas du tout de l'optimisme béat dont je fais preuve. C'est que, simplement, premièrement, il faut constater que cette mondialisation, elle existe et ça va être difficile de revenir en arrière que, comme vous le disiez, imaginez que le monde ne va pas revenir non connecté comme au temps de la Gaule ou je ne sais quoi. Et il est tout à fait normal que la haute cuisine française soit concurrencée. Je vois pas comment elle pourrait, à partir du moment où elle-même a influencé le monde entier. Bah, la codification, bah oui, on peut la suivre, mais on peut très très bien être thaïlandais, sénégalais, péruvien, et reprendre ses... Et en plus, en enrichissant cette codification française avec ses propres apports nationaux. Donc on voit pas pourquoi la France, elle a eu quand même aussi de la chance de rester hein, jusqu'environ à la fin du XXe siècle, aux années 2000, à cette place. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, la haute cuisine française reste quand même encore, quand même une place assez importante. Et puis troisièmement, on oublie complètement un élément, c'est tout simplement que ce que j'appelais tout à l'heure la révolution culinaire française, c'est-à-dire, gastronomique, je me trompe, la révolution gastronomique, c'est-à-dire cette pensée française qui se développe à partir de 1800, c'est en France que réapparaît le terme même de gastronomie, qui vient évidemment du grec ancien. Et puis en anglais on dit gastronomie avec un Y, parce qu'on traduit le français, mais vous voyez, donc on a une influence comme ça de la pensée. La physiologie du goût de Brillat-Savarin, dont on va fêter le bicentenaire l'année prochaine, hein, 2025, a eu une influence considérable dans le monde entier, et ça continue. C'est-à-dire, c'est quoi le discours gastronomique français? C'est d'expliquer l'importance de l'alimentation dans le fonctionnement d'une société. Et en particulier, donc, avec la double notion, c'est dans Brillat-Savarin, hein, de convivialité, il y a plusieurs fois le terme, c'est-à-dire manger ensemble, et de plaisir. On mange, c'est le plaisir. Le but de la gastronomie pour Brillat-Savarin, et pour moi aussi, et je pense que ça devrait l'être pour beaucoup de gens, ça l'est déjà pour beaucoup de gens, c'est le bien-être personnel et collectif, puisqu'on mange ensemble, on est en famille, on fait des banquets ensemble, etc., etc. Or, ce discours, c'était pas du tout évident qu'il s'impose. Déjà en France, la France était quand même un pays catholique. Or, la gourmandise, vous le savez bien, était quand même parmi les péchés capitaux. Et puis, celui qui mangeait beaucoup et qui passait beaucoup de temps à table, on disait que c'était un glouton, un goinfre. Et c'est ce discours gastronomique, donc une révolution de la pensée, qui va légitimer le fait d'être au restaurant, le fait d'être bien à table, le fait même d'être plus cultivé. Quand on est un gourmand, un gourmet, donc il y a une inversion de valeur. Le gourmand et le gourmet deviennent des valeurs positives dans le discours français. Et puis la notion de plaisir, par rapport à, je vous disais tout à l'heure, là c'est des histoires religieuses. Bon, bien sûr, péché capital dans le catholicisme. Mais enfin, quand même, quand vous regardez les comportements de la noblesse, pourtant les aristocrates allaient à la messe hein, régulièrement, bon, quand même, vous aviez déjà quand même... beaucoup de gourmandise dans l'aristocratie française avant 1800. Bien. Donc, une chose. Deuxième chose, ça c'est Jean-Robert Pitt qui l'explique et qui vient de sortir hein, une biographie de Brillat-Savarin. C'est tout récent comme livre. Jean-Robert Pitt, géographe, mais qui fait aussi de l'histoire, dit bien que ce catholicisme, pour lui, hein, c'est une des religions les plus tolérantes au niveau de la nourriture. Quand vous comparez aux interdits de l'islam, du judaïsme, etc., etc. Et puis quand même comme symbole dans l'Eucharistie, différent avec les protestants, vous avez quand même le vin et le pain, l'hostie, qui sont quand même censés non pas seulement représenter, mais être, hein, c'est ça la transsubstantation, être carrément le sang et le corps du Christ. Donc d'accord, péché capital, mais enfin, prendre deux éléments alimentaires comme représentation et même comme émanation même du corps du Christ, c'est quand même fort, ça. Il n'y a pas... Bon, voilà. Donc déjà, il y a ça pour la France. Et puis donc, la différence avec les pays, donc plutôt d'autres religions, en particulier protestants, où je vois que vous avez, je ne veux pas trahir hein, ce que je vois chez vous, mais je vois un paquet Kellogg là. Ben, Kellogg était un docteur américain, spécialiste, hein, de très très bon docteur. D'ailleurs, il a sans doute sauvé des centaines de personnes de la mort. Hein, donc spécialiste des problèmes du ventre. Hein, comment ça s'appelle?
La stomatologie.
Oui.
Gastro-entérologue,
on pourrait dire. Il avait une clinique, etc. Mais c'était aussi... un protestant très très austère, végétarien et aussi comment dire
très abstinent aussi,
très très abstinent, et la nourriture c'est vraiment bien sûr c'était vital, il fallait boire de l'eau et aussi consommer, mais ça devait pas être un plaisir hein. Donc vous aviez cette opposition. Or, pour finir de répondre à votre question, eh bien, ce discours français sur la convivialité, le plaisir d'être à table et le plaisir gustatif tout court, j'en reviens à mes cinq sens et donc le lien avec la corporalité, ce discours français développé à partir de 1800 ne cesse de gagner du terrain dans le monde. Donc l'influence française, elle est là. Alors économiquement, ça nous rapporte zéro, c'est vrai. Mais bon, on devrait quand même se rendre compte que là, si la France a une influence dans le monde, et pas que minime, parce que ça permettrait peut-être aussi que, c'est ce que dit Aurélie Brillat-Savarin et d'autres à sa suite, que les gens s'entendent un peu mieux entre eux, quoi, vous voyez ? Il y aurait moins de guerres, enfin, c'est pas négligeable, hein ? Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas à être inquiet, et d'une, on a encore des atouts économiques et l'étranger nous reconnaît, malgré quelques sarcasmes parfois, non pas cette supériorité, ça serait idiot, mais en tout cas ce savoir-faire, et puis cette ancienneté, cette tradition, etc., etc., puis tous les produits français quand même, et puis donc au niveau intellectuel, culturel, moral, on pourrait dire, pas au sens moral de la morale à suivre, hein, mais simplement au niveau de ce qu'on pourrait imaginer de souhaitable dans le fonctionnement d'une société et de l'entente entre les peuples, la France est vraiment au premier rang. Voilà.
J'imagine que l'inscription du repas français au patrimoine immatériel de l'UNESCO va dans ce sens-là aussi un peu.
Il va aussi dans ce sens-là, si vous voulez, mais il y avait un mélange, c'est ce que dit Julia Sargo, hein, qui a été la rapportrice de ce rapport à UNESCO, ma collègue historienne. Elle était tout à fait pour ce rapport, puisque c'est elle-même qui l'a rédigé, mais elle regrette un peu aujourd'hui ça, qu'il ait pris une telle valorisation économique, alors que pour elle c'était vraiment culturel. Donc, mais c'est culturel vraiment aussi, et ça peut aussi valoriser tout ce que je viens de dire sur le rôle culturel français dans le monde.
Denis Seillard, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie pour
votre intervention. C'était très enrichissant. Qu'est-ce que tu retiens de cet épisode, Bertrand?
Que l'identité nationale française est quand même. On a bien avancé quand même sur le sujet. Voilà, c'est ça que je voulais dire, que je voulais conclure. Moi, j'y vois beaucoup plus clair. On a dit plein de trucs hyper intéressants et on peut dire surtout merci beaucoup à Denis Seillard.
De quoi parle-nous le mois prochain?
Alors, le mois prochain, on va parler du ridicule en cuisine. Et oui, pourquoi? Pourquoi pas? Parce que c'est l'Eurovision qui t'y a fait penser. On peut le dire.
Qui t'y a fait penser à toi. D'ici là, comment fait-on pour nous contacter?
Alors, vous pouvez nous contacter sur le réseau social X Twitter, @la_grossebouffe, et par mail, lagrossebouffepodcast@gmail.com.
La Grosse Bouffe est un podcast qui sort tous les 21 du mois, à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. C'est également un podcast du label Podcut. N'hésitez pas à aller découvrir nos autres podcasts collègues, comme Binous USA ou Gonbe, et n'hésitez pas à participer à leur Patreon pour nous aider aussi indirectement. En participant au Patreon, vous pourrez par ailleurs rejoindre notre Discord et donc échanger en direct avec nous et toutes les autres émissions. Merci beaucoup Bertrand, merci beaucoup Denis. Salut.
Et puis à la prochaine, bisous.